messieurs, bonsoir. Alors, ce texte s'appelle « Mon traumatisme Jean-Jacques ». Et le traumatisme continue ce soir, il est même à son paroxysme devant un public aussi prestigieux. Est-ce que Hernan s'est réveillé? On peut y aller. Alors, très bien. C'est un copain de Colombie. Alors, il pensait qu'il était venu voir Patria Grande, la précédente pièce au Théâtre Saint-Gervais. Mais non, il est venu voir les textes sur Rousseau. J'espère qu'on arrivera à le captiver de la meilleure des façons. Alors, ce texte pour vous dire que ma relation avec Rousseau a très mal commencé. L'affaire débute à Genève, au collège Claparède, en 1987. Au programme de français, cette année-là, figurait la nouvelle Héloïse. Jamais livre ne me parut plus ennuyeux. L'épaisseur de l'ouvrage n'avait d'équivalent que l'effort nécessaire pour dépasser la page 10, tentative finalement insurmontable. La forme épistolaire du roman n'arrangeait rien. Le livre souffrait de la comparaison avec les orientalisantes lettres persanes et surtout avec les sensuelles et captivantes liaisons dangereuses, également au programme. Pour l'adolescent d'alors, pas la moindre trace de tension, d'érotisme et d'action comparable dans la nouvelle Héloïse. Je ne comprenais rien à ce récit contemplatif dans lequel tous les personnages me semblaient plats et terriblement raisonnables. Bref, je laissais tomber l'ouvrage au sens propre et figuré. Ma note de français, qui jusqu'alors m'avait permis d'atteindre péniblement la moyenne générale et avait contribué à mon passage laborieux d'un degré à l'autre, s'en ressentit aussitôt et du coup, je dus quitter le collège pour cause d'insuffisance aggravée. Je maudis alors Rousseau au plus profond de mon être et jurais bien de ne plus jamais m'intéresser au barbant genevois. Mais, une vingtaine d'années plus tard, alors que j'essayais de me frayer un chemin dans le monde du théâtre, je rompis mon serment et allais voir un montage de textes de Rousseau au Théâtre Saint-Gervais. L'interprète principal récitait des morceaux choisis au milieu du public. Erreur fatale du metteur en scène et de son scénographe, les spectateurs étaient installés autour de l'acteur, sans doute pour créer une ambiance intime dans de moelleux canapés. Vous imaginez aisément la suite. Après une heure et demie de ronflements mal camouflés, je quittais le théâtre furieux, je sortis épuisé une bière en plantant mentalement un clou définitif dans le cercueil de Rousseau et j'en profitais dans la continuité de mon fantasme vengeur pour sceller définitivement la crypte du Panthéon de béton armé. Rousseau et le corbeau d'Edgar Poe, même credo, never more. Voilà qu'à l'occasion du tricentenaire de la naissance du désormais catalogué raseur en chef, ce même théâtre Saint-Gervais me propose de me pencher sur l'œuvre et la vie du grand homme dans l'optique d'un éventuel spectacle à écrire. Féru de sagesse populaire, j'applique à la lettre le dicton « jamais deux sans trois ». Et je tente à nouveau de percer le mystère Rousseau. En essayant de concilier mon intérêt pour la politique et mon devoir de mercenaire théâtral, je commence par le contrat social. Là encore, le livre me tombe des mains, mais, fait inédit, je me surprends cette fois à le ressaisir et à m'y accrocher. Chaque phrase nécessite une relecture minutieuse. L'œuvre est lumineuse et complexe, à la fois bienfaisante et frustrante. Je comprends enfin que Rousseau se mérite, que sa lecture ne doit pas se pratiquer de manière horizontale, mais verticale, en profondeur. Inutile de tenter de lire 50 pages d'une traite ou de planifier l'absorption de 3 volumes dans un espace-temps déterminé afin d'accumuler le plus de matière possible, non. Il faut lire Rousseau lentement, s'arrêter après chaque paragraphe, réfléchir, le relire, s'interroger, s'émerveiller, puis désespérer, car la phrase qui suit celle dont on était enfin certain d'avoir saisi le sens après une dizaine de relectures concentrées, la contredit radicalement. Il m'a fallu plusieurs fois abandonner les textes de Rousseau pour mieux y revenir. Je me suis arraché les cheveux en essayant de comprendre les différents modèles analysés dans le contrat social, de saisir comment on pouvait être à la fois un précurseur de la Révolution et faire l'apologie de la puissance impériale romaine. Comment on pouvait à la fois fustiger le barbare mahométan dans un ouvrage et louer l'œuvre de Mahomet dans le suivant. Comment on pouvait, au péril de sa vie, défendre un panthéisme cosmique dans l'Émile, puis chanter les louanges du rigoriste Calvin dans la lettre à d'Alembert. Comment enfin on pouvait être musicien, auteur de théâtre, et fustiger les arts, le théâtre en particulier, dans deux ouvrages fondamentaux. Bref, j'arrête là la liste des contradictions auxquelles j'ai été et je suis toujours confronté. C'est en allant voir du côté des successeurs de Rousseau que j'ai pu dissiper quelques ténèbres. Ainsi, un coup d'œil à la dialectique marxiste donne-t-elle a posteriori un aperçu plus cohérent de la pensée politique de Rousseau, de sa dynamique, de son nécessaire examen des positions contradictoires et de la synthèse qui doit en découler. L'œuvre de Rousseau n'est pas un mode d'emploi, mais bien une œuvre en mouvement, vivante et exigeante comme il y en a peu. Pas étonnant que certains y consacrent une vie. Ainsi, Jean Starobinski, dans son monumental ouvrage « La transparence et l'obstacle », que vous connaissez peut-être, offre-t-il une cohérence aux apparentes contradictions de Rousseau sur le plan personnel, aux conflits flagrants entre exigences morales et parcours de vie, pour le moins dissolu. C'est, que nous dit Starobinski, l'œuvre dans sa totalité doit être relue, reconsidérée à la lumière des confessions. Si la réforme personnelle de Rousseau marque une rupture radicale dans sa vie et le début de son œuvre écrite, le parcours de vie antérieur chaotique ne s'en trouve pas déconsidéré pour autant, car les errances trouvent leur origine dans une pulsion d'immédiateté, ayant presque rang de vertu, puisqu'étrangère au calcul et au masque en cours dans la vie sociale. L'erreur dans la transparence, nous dit Starobinski, n'en est plus une. Enfin, et ce n'est pas le moindre de ses mérites, Starobinski trouve même le moyen de rendre la nouvelle Héloïse intéressante. Il y est question d'une communauté humaine au sein de laquelle la notion de bénéfice et de plus-value économique est absente, le surplus éventuel de la production agricole et viticole de l'exploitation de Volmar, en intelligence avec les employés, étant également réparti. La nouvelle Héloïse serait donc autre chose qu'un monument d'ennui pré-romantique. On le voit, la quête est sans fin. Je conclurai de manière abrupte et arbitraire en revenant sur ce qui me fascine le plus au sujet du citoyen de Genève, c'est-à-dire son impact. Quelle que soit la période historique, postérieure évidemment, traitée, on retrouve constamment la trace de Rousseau. Sans Rousseau, pas de Marx et son corollaire de bouleversements sociaux, pas de Révolution française, évidemment, non seulement en ce qui concerne la question sociale, mais aussi spirituelle et festive. L'être suprême de Robespierre semble découler directement de la profession de foi du vicaire savoyard. Quant aux fêtes populaires, elle renvoie à n'en pas douter à la lettre d'Alembert. Plus incroyable encore, la valorisation de l'homme naturel, les références à l'ethnologie, semble avoir joué un rôle important dans l'abolition de l'esclavage par la Convention. Un siècle plus tard, dans la pensée de Jean Jaurès, on retrouve encore l'influence affirmée de Rousseau, précurseur d'un socialisme humaniste teinté de spiritualité chrétienne, dont le martyr de juillet 1914 fut le héros. Le souffle de l'histoire internationale est marqué par la pensée de Rousseau, que ce soit dans les cercles révolutionnaires chinois, russes, africains, dans la geste de Simon Bolivar, et aujourd'hui, chez son lointain héritier, Hugo Chavez, qui cite de mémoire des phrases de Rousseau lors de ses longues harangues publiques. Quant aux questions dramaturgiques qui agitent le landerneau théâtral de nos jours, elles trouvent leur écho lointain dans cette horripilante mais stimulante lettre à D'Alembert. Cette dernière est son œuvre cousine, le discours sur les sciences et les arts, préfigurant aussi les situationnistes et la société du spectacle de Guy Debord. Toute l'œuvre de Rousseau porte en filigrane le fameux énoncé commun à celui de Debord sur le mensonge de la société raffiné à un point si perfectionné qu'il en est devenu la vérité du monde. J'arrête là ce catalogue suggestif et subjectif. Je ne résiste toutefois pas à m'arrêter sur un autre mystère auquel je n'ai jusqu'à présent trouvé de réponse dans aucune analyse, ni même dans les confessions. Comment un enfant d'extraction modeste, devenu semi-vagabond, après avoir échoué dans ses différents apprentissages, comment un aventurier médiocre, sorte de Barry Lyndon avant l'heure, parcourant les routes d'Europe au petit bonheur, sorte de semi-improvisateur, parfois à la limite de l'escroquerie, comment cet homme est-il devenu un esprit aussi performant, dont la pensée a eu les conséquences révolutionnaires que l'on sait pour son temps et pour la postérité? Mystère de l'autodidacte, mystère du génie humain. Devant une telle avalanche de questions autour de l'œuvre et de la vie de Rousseau, mais désormais sensible au bonheur intense, à l'ouverture d'esprit que constitue la matière léguée, même si elle ressemble parfois à une montagne impossible à gravir, il ne reste que modestement à continuer la quête, à lire, à s'interroger, à continuer à nourrir son esprit de cette œuvre fondamentale, jusqu'à essayer de se replonger dans la nouvelle Héloïse. Thank you.
merci d'être là. Je vais lire, quant à moi, un texte beaucoup plus bref, intitulé « Jean-Jacques, solitaire au milieu des eaux ». L'événement eut lieu pendant la nuit du solstice d'hiver. Au matin, la ville était blanche comme en cire. Et l'île Rousseau, le pont qui nous y conduisait la veille encore, n'était plus là. Sous des parapluies, tantôt rouges, tantôt noirs, une foule de ballots occupait les deux rives. Ils regardaient avec incrédulité, maintenant perché au sommet d'une colonne de pierre et de terre, la statue enneigée de leur compatriote plume en main. Et le fauteuil, où depuis longtemps il demeurait assis, familier des pigeons, du fleuve, des nuages et des saisons. À ce jour, nulle explication du phénomène n'a été trouvée. Les éditorialistes locaux s'interrogent. Les mauvaises langues vont bon train. Une rumeur de complot circule. Différents partis s'affrontent. Dans les rues, au café, les conversations reviennent toujours à cette affaire. Dès le début, les parapluies rouges ont accusé les parapluies noirs. Ils font la sourde oreille. Malgré les recherches menées par une équipe d'hommes grenouilles, l'énigme demeure entière. Car le pont, l'île n'ont pas sombré. Ils ont bel et bien disparu comme enlevés dans les airs. En l'état des choses, l'unique certitude est la suivante. Si les autorités n'entreprennent pas sur l'heure les travaux nécessaires pour sauvegarder cet ultime vestige que rongent les dents du fleuve, l'étrange stylite coulée dans le bronze chutera demain. Toutes les eaux vont à la mer.
Parler de saints chez des protestants, encore qu'avec les abjurations répétées de Rousseau, on se sente moins lié à la rigueur étymologique. Chaque fois que l'on entendait prononcer son nom, mes parents s'écriaient « Quel ingrat !» Ma grand-mère renchérissait « Quel saligo !» À quoi l'arrière-grand-père ajoutait « Un fieffé coquin !» Et les insultes remontaient des siècles jusqu'à l'aïeule à laquelle Rousseau avait manqué de respect, une certaine Madame de... Fort maigre, fort blanche, dont ce seul défaut eût suffi à me glacer, note-t-il dans une description très flatteuse. Mais que s'est-il passé exactement entre eux ? Une histoire de femme, de jalousie, un complot odieux, de la méchanceté, de la folie, un renvoi, de la fausseté, des lettres des deux côtés en témoignent dans toute leur subjectivité. Il n'en reste pas moins que Rousseau demeure celui qui a insulté l'aïeul, et bien que nous ne pratiquions pas le canon albanais, la vendetta est la loi du sang, la famille attend réparation depuis des générations. Aussi, quand ils apprirent que j'allais écrire un texte sur Rousseau, m'ont-ils tous pressé de saisir l'occasion pour laver l'honneur familial. Mais comment ? Dans une liste d'insultes qui aurait ressemblé à celle du capitaine Haddock, en exhumant des lettres inédites conservées dans les archives paternelles qui auraient accablé le mufle, Il n'y en avait pas. En recherchant quelques descendants du grand éducateur et en lui proposant un duel, n'importe quel Pékin pourrait se réclamer de Rousseau. Quant au duel, on lui préfère aujourd'hui les tirades d'avocats, hélas trop dispendieuses pour moi. Sans compter que de Rousseau, je connaissais si peu et que le peu que j'en savais me l'avait plutôt rendu sympathique. N'avais-je en effet pas lu sous sa plume que « femme qui pète n'est pas morte » ? Cette phrase à l'humour éclatant me paraissait un pronostic vital bien plus sûr que n'importe quel charabia médical, et je souris à l'idée que Rousseau, qui se crut si souvent à l'article de la mort, avait peut-être tenté l'exercice en baumant la pièce de toute sa force vitale. Ainsi, sans trouver comment laver l'honneur familial par voie écrite, je passais de nombreuses nuits à régler son compte au citoyen Jean-Jacques Rousseau, soit en lui tendant une embuscade mortelle lors d'une de ses promenades heureusement solitaires, soit en lui portant le coup fatal alors qu'il enfilait sa tenue d'Arménien, ou moins définitif mais tout aussi efficace, en lui cassant la main sans laquelle il n'aurait pu écrire. Évidemment, toutes ces actions oniriques n'impressionnèrent guère ma famille, qui me pressa d'en finir une fois pour toutes avec cet ingrat, sous peine de déshonorer à mon tour notre lignée. Probablement pour fuir cette menace, je montai à Paris, bien qu'en réalité son altitude fût bien inférieure à celle de Lausanne, et visitait entre autres images d'Épinal le Panthéon. Quel soulagement, quelle libération, et surtout quelle riche idée que celle qui me conduisit dans cette nécropole VIP, ce temple de l'ego, cette arche de Noé de la pensée. Car de voir l'illustre Rousseau scellé dans un tombeau qu'aucune main n'arriverait plus à ouvrir, encastré dans une crypte lugubre, avec pour voisin son ennemi Voltaire, encore que leurs incessantes querelles apportent certainement un peu de chaleur dans cet univers glacial, et tout cela à cause de sa plume qui avait tant offensé mon aïeul, je renonçais à toute réparation, persuadée que reposer en ce lieu était une punition assez grande pour un homme qui aimait tant la nature. J'espère que ma famille comprendra.
C'est très serré ici. Bonsoir et merci de vous être déplacé un samedi soir. Nouveau discours sur l'inégalité et aussi sur l'origine possible d'un amour. Bien cher Jean-Jacques, je suis résolue à vous écrire une lettre d'amour, mais avant de vous livrer les tremblements de mon cœur et la couleur de mes larmes, je tiens à vous donner des nouvelles d'un sujet qui vous a pris la tête autant qu'il occupe la mienne. Je veux parler de cette lourde question de l'origine et des fondements de l'inégalité parmi les hommes. Si en son temps, l'Académie de Dijon, qui avait lancé le concours, avait circonscrit le problème à l'inégalité dans le règne végétal, vous obligeant à passer en revue Mouron, Cerfeuil, Bourrache et Sénesson, il est certain que vous seriez devenu un herboriste célèbre. Vous auriez consacré aux plantes autant d'ardeur que vous en avez mis à remonter la piste du bon sauvage. Mais si l'émail des prés, l'éclat des fleurs et la fraîcheur des bocages l'avaient emporté chez vous, sur la question de ce que les plus puissants font aux plus misérables, alors vous n'auriez jamais été, Jean-Jacques, le premier homme qui m'ait fait pleurer. Ce que j'ai d'abord lu de vous n'avait rien de triste, ni même d'émouvant. Vous vous promeniez dans l'histoire des hommes, et c'était à peu près tout. J'avais connu jusque-là, dans d'autres ouvrages, quelques chagrins véritables et m'étais arrêté sur des scènes autrement plus délectables, où un lion tant aimé était abattu d'un seul coup, où un sabre chauffé à blanc brûlait les yeux d'un intrépide messager, où l'on lacérait, en dépit de mes cris, la peau d'un esclave noir qui ne cédait rien de sa foi, rien de sa dignité. Ce sont vos phrases, pourtant, qui m'ont livré à des frissons nouveaux. Et si je préfère en taire les contours et la puissance, ce n'est pas par décence, mais par incapacité à dire un miracle où la part de la musique m'apparaissait plus grande encore que celle des mots. Je ne sais pas à quoi s'occupent les académies de nos jours. Le fait est qu'elles n'organisent plus de concours, et quand bien même le feraient-elles, qui, parmi nous, prendrait la peine d'envoyer des discours sur un monde devenu trop petit, ou trop grand, ou lassant? Chacun s'occupe désormais de penser par lui-même devant un écran. Notre temps est si ténu que nous veillons à tronquer les questions tout autant que les réponses. Et nos mots se jettent dans un fleuve fou dont personne ne sait dire où il prend sa source, ni même où il conduit. C'est que nous allons vite, si vite, aujourd'hui. Tout a été mis en œuvre pour augmenter la cadence. Il n'est plus un geste humain, un sentiment, une machine, un besoin qui n'ait été répertorié, analysé et redimensionné afin de produire ce summum auquel toute vie est censée aspirer. L'efficacité, la performance, le moins consacré à obtenir le plus. Moins de mains pour faire plus de travail, moins de justice pour obtenir plus de rendement, moins de responsabilité, davantage de futilité. Jusqu'à la vérité, dont nous nous soucions peu, obsédés par la transparence. Vous nous voyez à l'heure où je vous écris, Jean-Jacques, plus efficace que jamais, et malgré tout sans une seconde à consacrer au flot de la vie. Je ne parle même pas d'herboriser. Si des cinglés souhaitent s'y adonner, on leur fait aussitôt avaler des pilules. Nous avons consacré tant de peine à gagner du temps que nous n'en avons plus aucun. Comme si la démesure de notre ambition nous avait poussé à l'erreur. Et ce que nous avons sacrifié, par inadvertance, je le crains, n'est rien d'autre que l'amour, la joie, la générosité. Dans le temps qu'il vous fallait, sur l'île Saint-Pierre, pour faire le tour de quelques gramènes, mousses et lichens, une loupe à la main, nous allons d'un coin à l'autre de la planète, sans même nous en apercevoir. Nous veillons à trouver, partout où nous courons, nos bouchées habituelles de luxe, lampées de calme, gorgées de volupté. Seuls les plus misérables, qui sont encore et toujours les plus nombreux. Il s'agit d'un détail confidentiel que je vous livre ici, Jean-Jacques. N'en profitez pas pour faire un scandale. S'épuisent en voyage quand ils n'y perdent pas la vie. Et ce qui les attend sur ces terres étrangères enfin abordées est plus cruel et vain que tout ce qu'ils ont dû abandonner. En réalité, nos lois sont belles, ripollinées. Partout, la cosmétique s'est frayé un chemin. L'homme en tant que tel est désormais considéré, protégé, égalisé, article par article. On s'occupe de lui dans des officines sérieuses. Ses malheurs sont dénoncés, garnissent la bourse de ceux qui savent en rajouter. Vous-même, Jean-Jacques, si vous viviez, vous seriez d'or sur nos plateaux TV. On enrubannerait vos constats incendiaires pour Noël et votre Thérèse aurait déjà vendu les meilleurs morceaux de ce que furent vos communes calamités. Vos inégalités nous laissent de marbre. Bien cher, nous sommes trop occupés. Cette question que vous décortiquiez vers 1750, nous avons compris qu'il valait mieux la mâchouiller les pieds au chaud, la conscience repue. c'est que notre monde est devenu égalitaire tout seul, sous l'effet conjugué de la force des choses et du progrès inévitable. Oui, monsieur le philosophe des gueux. Même les Chinois ont troqué leur vélo pour des quatre roues motrices, et si je m'arrête à la Chine, c'est que je suis pressée. Je pourrais multiplier les exemples. Quant aux femmes, qui sont, dans leur immense majorité, esclaves parmi les esclaves sur cette terre, elles continuent, par chance, à recourir à ces dons de docilité et de modestie qui suscitaient déjà votre enthousiasme à l'époque. Seules celles qui ont acquis, depuis peu et en petit nombre, ce qu'il faut bien appeler de l'instruction, se plaignent, surtout aux postes les plus élevés et les plus qualifiés, puisque c'est là qu'elles sont le plus discriminées. Les différences de traitement, qui persistent à dépasser l'entendement, disent de nos mœurs davantage que nos plus beaux discours sur les sciences de la vie quotidienne et l'art de noyer le poisson. Mais allons-nous, pour si peu, jeter une ombre au tableau ? Veuillez souffrir encore qu'avant d'en venir à de plus tendres rêveries, je vous dise mon admiration d'avoir si bien su douter. Car enfin, ce bonhomme des bois, votre sauvage initial, vous avez surtout craint qu'il n'ait jamais existé, n'est-ce pas ? Eh bien, vous aviez raison. Nous ne venons pas du sauvage, très cher. Au contraire, nous y allons. On vous a moqué, je m'en garderai, parce que votre homme de la nature, vous l'avez trouvé bon. Votre plume aura glissé, voilà tout, emporté par l'imagination. J'ai sur vous l'avantage d'un siècle ou deux, en particulier du 20e, dont je vous recommande l'herborisation. Nous avons payé cher la leçon et savons désormais que le sauvage n'est ni bon ni mauvais, mais sauvage au savoir. Ô combien, ô comment. La vérité exige toujours sa rançon. J'ai confiance en vous et sais que vous comprendrez qu'en son nom, nous soyons contraints de modifier l'une de vos célèbres injonctions. L'heure est arrivée, Jean-Jacques, où ce sauvage, nous pouvons sans hésiter le confondre avec l'homme que nous avons sous les yeux.
Pour savoir pourquoi en fait j'aime Rousseau et pourquoi je pense qu'il m'a beaucoup influencée, et pas seulement moi bien sûr. Quand je pense à Rousseau, je pense à l'auteur des Confessions tout particulièrement, bien qu'on puisse difficilement séparer l'écrivain du philosophe. Mais en effet, ce qui me touche sur Rousseau est un aspect que l'on trouve aussi bien dans son œuvre philosophique que dans les Confessions. Rousseau, c'est l'homme du divorce entre soi et la société. Ce divorce est douloureux. C'est ce que nous apprennent les Confessions. Dans le commerce avec ses semblables, Jean-Jacques est déplacé, mal à son aise, honteux. Il ne sait pas saisir les opportunités que lui propose la société. Par exemple, quand le roi lui offre une pension, il ne veut pas se présenter à la cour parce qu'il a peur d'être timide, de bégayer, d'être balourd, et donc il perd le bénéfice de son succès. Il est vraiment incapable de s'adapter au jeu de la société et c'en est quasiment énervant. Il ne supporte pas le moindre joug, comme il dit, il aspire à une liberté absolue dont j'ai de la peine à imaginer en quoi elle pouvait vraiment consister. Même au sein de sa famille, même avec Thérèse, il ne trouve pas son compte, puisque chez elle non plus, il ne peut pas trouver cette intimité à laquelle il aspire, qui est à la fois une proximité intellectuelle, amoureuse, amicale. Mais finalement, au nom de quoi Rousseau critique-t-il cette société ? Critique-t-il les relations humaines qu'elle induit ? Critique-t-il tout, finalement ? Le philosophe parle de vertu qu'il ne trouve pas, il parle de morale. Selon lui, c'est l'inégalité qui pervertit l'une ou l'autre. Ça, c'est le philosophe. Mais où se situe Rousseau, l'auteur des Confessions, pour juger de la méchanceté des hommes, de leur mesquinerie et des rapports de force qu'ils entretiennent ? Quand il juge, c'est à mon sens à partir du cœur, de l'émotion, qui ne peut pas se résumer au jeu social. C'est là, dans le cœur, dans l'émotion, que prend naissance sa distance vis-à-vis des autres. Dans cet espace ouvert entre moi et la société, entre moi et les autres, se déploie justement un espace de pensée, un espace de liberté, un espace de création. L'aspiration à une révolution des relations avec autrui, à une nouvelle société, naît là, justement là, dans le cœur, dans l'intime, dans ce qui met l'individu en porte-à-faux avec les autres. En fait, Rousseau critique, fustige, à partir de son inadaptabilité même. L'individu peut retrouver une sorte de nature première, libre de tous les faux-semblants dictés par la société à travers les émotions. Et c'est ces émotions, on le comprend à la lecture des Confessions, elles ne sont pas des pulsions informes générales, elles sont articulées et individuelles. Et c'est l'art, finalement, qui permet de les restituer et de les partager. Ainsi, lors de la première du devin du village, Rousseau constate avec bonheur que tout le monde pleure d'attendrissement et partage donc cette émotion qu'il a su transmettre. Alors bien sûr, cette authenticité plébiscitée par Rousseau peut paraître naïve, il est facile de la critiquer. Finkielkraut estime que la pensée de Rousseau est la lointaine origine de notre besoin de transparence, justement, de sincérité. Parler de nos jours, dit Finkielkraut, ce n'est pas d'abord s'adresser à quelqu'un, c'est s'exprimer, et il le dit avec mépris. Dans les règles de courtoisie, on a tendance à voir que l'hypocrisie, ce n'est pas l'urbanité qui règne, c'est la spontanéité, etc., etc. Et là n'est pas la seule critique qui me vient à l'esprit. N'est-il pas difficile, par exemple, de croire après Freud que notre cœur soit pur, authentique, et qu'il permette vraiment la naissance d'une communication réelle. Rousseau, tel que je le lis, pourtant, fait confiance à l'authenticité des émotions qui lui viennent du cœur et qui sont le garant d'une langue naturelle entre les hommes. Une langue qui cherche à laisser l'autre libre, qui répugne à le prendre en otage, que cela soit... Pardon. C'est une langue qui cherche à laisser l'autre libre, qui répugne à le prendre en otage, que cela soit par la séduction ou par le raisonnement. Et c'est cette langue-là qu'il utilise dans ses Confessions. En lisant Rousseau, je me suis rendu compte combien cette exigence d'authenticité guidait implicitement ma démarche d'écriture. Même si, bien sûr, le concept reste discutable et qu'il peut paraître à certains dépassé. Mais au-delà des critiques toujours possibles, je suis très reconnaissante à Rousseau de cette confiance qu'il met dans la capacité de l'homme à se régénérer selon des ressources qui lui sont propres et loin des attentes d'une société, quelle qu'elle soit. Si je ne pouvais pas croire en cette possibilité, je ne verrais absolument pas le sens de la création artistique, qui, à mon sens, serait alors condamnée à se répéter à l'infini ou à devenir pur divertissement.
Sûrement de 1912, le bicentenaire de ta naissance. Quelle incroyable fête! On a dansé toute la nuit à chaque carrefour du quartier latin. On t'a fêté à Zurich, comme à Berlin. À Saint-Pétersbourg, on criait ton nom. Dans les églises de Londres, on lisait tes pamphlets. À Genève, on a décrété un jour férié. On a décoré ta rue et les fontaines. On t'aimait parce que tu avais été dans les cœurs de ceux qui ont pris la Bastille. On chantait « Vive la Révolution » et les fanfares de ta ville natale entonnaient la Marseillaise. Tandis qu'une estrade de 500 mètres carrés mettait en valeur ton gigantesque buste. Et un académicien français de s'écrier sous les vivats « L'apparition de Rousseau marque une des dates capitales de l'histoire humaine. » Et puis, il y a eu la cérémonie au Panthéon. 1200 musiciens, le président de la République en grande pompe, la police débordée, les députés de l'Assemblée nationale en nombre, salves d'artillerie, sonneries de cloches, c'était une formidable passion populaire qui te portait. Mais c'était aussi les injures des nantis, la haine de tes ennemis, mal remis de quelques phrases assassines que tu avais eues contre ceux qui accaparaient le bien commun et qui soutiennent les oligarques. Tout avait commencé dans la banlieue de Paris, fin avril 1912, quand la police avait enfin cerné la joyeuse bande anarchiste qui faisait trembler les banques, la bande à Bonneau. Après une chasse à l'homme à laquelle l'Europe entière avait participé, la voiture jaune de Jules Bonneau avait enfin été repérée. Ses camarades et lui étaient retranchés dans un garage de la périphérie parisienne. La police avait pris position et le Figaro avait invité ses lecteurs à venir participer à l'épisode ultime où justice serait rendue en public. Bonneau et sa bande allaient être exécutés sous les yeux des bourgeois accourus en masse grâce à des trains spéciaux organisés en toute hâte depuis la capitale. Des milliers de curieux se pressaient donc derrière les cordons policiers pour vivre en direct l'assaut final. Dans cette foule agitée, les uns traitaient Bonneau de crapule, mais les autres prétendaient que, s'attaquant aux banques et aux riches, il ne faisait que mettre en pratique tes idées, Jean-Jacques. Et comme tu avais mérité la lapidation à moitié, Bonneau, lui, méritait qu'on l'extermine. 29 avril 1912, l'assaut a été donné à la dynamite, et dans les décombres, on a retrouvé Bonneau, agonisant, mais serrant dans sa main 20 feuillets fraîchement écrits, expliquant pourquoi il fallait exproprier les riches. Deux mois plus tard, dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, les Camelots du Roi, un groupe d'extrême droite, sont venus perturber la cérémonie en ton honneur. Ils se sont mêlés au public, se sont levés à tour de rôle pour t'injurier. Rousseau est l'ancêtre de Bonneau. On sortait le trouble-fête, un autre se levait gesticulant. Rousseau est un salaud. On le sortait lui aussi. Plus de 30 camelots du roi se sont manifestés ainsi pour te crier des injures. 200 ans après ta naissance, ces gens-là ne te pardonnaient pas d'avoir chassé leur roi, dénoncé les privilèges. Comme ils étaient bien décidés à te chasser du Panthéon, il a fallu prendre des mesures, quadriller le quartier latin pour ta défense. Mais ça n'a pas suffi. Le président Falière, lui-même, a été chassé par les camelots du roi et le ministre de l'Intérieur molesté. Finalement, l'enthousiasme populaire a eu le dessus, malgré quelques échauffourées encore, à Montpellier et dans d'autres villes où les camelots du roi t'ont traité de métèque, de balarbin et encore, bien sûr, de salaud. En ces jours-là, te souviens-tu, personne n'a pensé faire de toi un écrivain d'abord, embaumé entre les pages de sa Pléiade. Personne ne t'a traité de passeur, de promeneur, de doux rêveur. Personne n'a mis en doute ta formidable énergie révolutionnaire. Et nous voilà 100 ans plus tard. Ils chassent les indignés de nos parcs. Ils refusent aux promeneurs l'accès à ton lac. Ils ont remplacé la maison de ton enfance par un grand magasin qui s'étend au mépris de nos lois. Ils veulent fermer les portes de Genève, une fois de plus. Te voici réduit à être inscrit à l'inventaire du patrimoine régional pour, je cite, pour une meilleure circulation des publics. Et on voit les descendants des camelots du roi s'allier à ceux qui firent la révolution en nos murs pour te faire dire des choses que tu n'as jamais dites sur leur chère identité nationale. Les populistes te sponsorisent à l'île Saint-Pierre. Ceux-là même qui te traitaient de salaud ont fait de toi un logo. Mais nous sommes quelques troubles faits, à le savoir. Tu as voulu changer le monde. Tout n'a pas réussi. Possible que Bono t'ait mal compris. Mais il va falloir terminer le travail. Chasser les oligarques. Bonne nouvelle, Jean-Jacques. Nous sommes nombreux à leur tenir tête. Tous infiltrés en leur réseau. Heureux de pouvoir te souhaiter, comme tu le mérites, un joyeux et turbulent anniversaire.
Jean-Jacques Rousseau aussi y a cru. Ce qu'il pensait d'elle, c'est qu'elle devait être un réservoir de vertu. Quel choc alors quand il a constaté à plus de 40 ans que les amis sont tracassiers parfois, cancaniers souvent, médisants, prêts à faire votre bonheur malgré vous et à vous expédier où vous n'avez nulle intention et nul goût d'aller. Qu'ils se régalent des intrigues et des commérages, trouvent leur bonheur à fabriquer les unes et propager les autres. Diderot querelle Rousseau afin qu'il accepte la pension royale proposée après le devin du village pour le bien de Thérèse et de sa mère, dit-il. Le même Diderot, en discret, brouillon, dirigiste, se choque de voir Jean-Jacques à l'Ermitage parce qu'il aime Paris et qu'il veut que son ami l'y rejoigne, insiste pour qu'il accompagne Madame Dauphiné à Genève, donne des ordres et des conseils, se mêle de tout. Ce que Rousseau ne peut pas comprendre, c'est que dans tout ça, les amis vous considèrent comme une partie d'eux-mêmes, ce qu'il fait qu'ils vous traitent sans égard particulier, qu'ils valorisent ce qui leur ressemble et veulent réformer ce qui se différencie d'eux. Bien entendu, il y a aussi autre chose qui sépare essentiellement nos deux écrivains. Deux positions éthiques inconciliables font que chacun deviendra l'envie ou le remords de l'autre. Deux positions entre lesquelles chacun de nous doit choisir. Voilà qui m'intéresse beaucoup. Diderot croit qu'on peut transformer les choses de l'intérieur. Jean-Jacques donne l'exemple de la vertu et refuse de se compromettre dans le monde. Il pense qu'on ne doit pas sacrifier le profit à la morale, se frotter complaisamment au pouvoir tout en faisant la révolution dans son cabinet, que l'implication sociale conduit forcément à une hypocrisie développée par les lois et les institutions, liée au développement des sciences et des arts qui étendent des guirlandes de fleurs sur les chaînes de fer. Au départ, dans une sorte d'âge d'or indéfini quand l'État n'existait pas encore, dit le discours sur les sciences et les arts, il y avait la franchise rustique, la liberté originelle, la pauvreté, la vertu, les vraies valeurs. Amour de la liberté, de la patrie, de la religion, frugalité, simplicité. Toutes ces qualités morales qui se sont perdues. Nombreux exemples partout dans l'histoire. Et pas besoin de philosophie pour les connaître. Les principes ne sont-ils pas gravés dans tous les cœurs? On peut en douter, évidemment, comme aussi de la valeur de ces valeurs. Peu importe. L'important, c'est que ce fantasme original lié à l'esprit roman et sourcilleux de Jean-Jacques, à son ignorance des accommodements, à ce refus des alternances, des complexités, des paradoxes humains, lui fournit une conception de l'homme vertueux, majusculé, idéal. Et voir l'homme tel qu'on voudrait qu'il fût, et non tel qu'il est, peut peut amener un gouvernement qui impose aux citoyens de se plier à des règles incompatibles avec leur nature compliquée. Il y a dans la quatrième partie de la nouvelle Héloïse un projet de codification de la société idéale. À Clarens, l'organisation de la domesticité, de ses loisirs clos, oblige à la vertu, aux jeux et aux exercices dominicaux. Bien sûr, les domestiques n'y sont pas forcés, mais celui qui s'en va seul, échappant au groupe, se fait remarquer. Nous regardons ce bout de licence comme un indice très suspect, et nous ne tardons pas à nous défaire de ceux qui l'ont. Scène des vendanges. Le soir, tout le monde se rassemble, possédant ouvrier dans une salle où, je cite, « la douce égalité rétablit l'ordre de la nature ». Chacun se lève indifféremment pour servir, sans exclusion, sans préférence. Mais la présence de maîtres si respectés contient tout le monde. D'ailleurs, bien entendu, s'il arrive à quelqu'un de s'oublier, il est congédié sans rémission dès le lendemain. Ces maîtres très malins se préservent d'avance de la révolution. Pour prévenir l'envie et le regret, on tâche de ne rien étaler aux yeux de ces bonnes gens qu'ils ne puissent retrouver chez eux. Plus loin, on trouve une description des héros du travail. On taille du chanvre, sépare la filasse de l'écorce, la chenevotte qu'on ramasse en tas pour y mettre le feu. « Mais n'a pas cet honneur qui veut », écrit Rousseau. Julie l'adjuge en présentant le flambeau à celui ou celle qui a fait ce soir-là le plus d'ouvrage. L'auguste cérémonie est accompagnée d'acclamations et de battements de mains. Donc, proclamation d'égalité alors que les maîtres dirigent en cachant leurs privilèges et célébration des héros du travail stakhanoviste. Mais plutôt que remâcher quelques agacements, pourquoi ne pas me remettre aux confessions? Son premier mot, « je ». Je forme une entreprise. Dans cette phrase à structure binaire, deux époques, deux pronoms relatifs, double et négatif, il y a ce « je » central placé entre le passé et le futur, poursuivi et désirant, un « je » qui veut montrer la vérité de la nature, ce qui est au-delà des apparences, plus vrai qu'elle. « Moi seul, dit-il, moi seul est unique, moi seul va se retracer tel qu'il est, avec ses différences, ses écarts, mais de cette manière, il va révéler quelque chose à ses semblables. Oui, c'est ainsi que Rousseau appelle les autres ses semblables. Ils sont uniques aussi, une identité non identique, mais nul n'est meilleur ni pire que Jean-Jacques, que chacun, que tous, que moi. À l'intérieur, il y a la grande fraternité humaine du composite, un peu de bon, un peu de mauvais, des élans, des chutes, à l'extérieur, le poids des circonstances. On est bien loin de l'homme idéal, vertueux, originel, on est dans un projet d'artiste d'un nouveau genre qui transformera la littérature. Une subjectivité face au monde. Et une ambition énorme, arriver devant la trompette du jugement dernier avec un livre à la main. Ça va devenir le rêve de tout écrivain, un livre qui justifie toute une existence. Chateaubriand, cet héritier direct, se demande s'il l'a réussi quand il trace les derniers mots des mémoires d'outre-tombe le 16 novembre 1841, à 6h du matin, alors que la lune pâle et élargie se couche. « Maintenant, je peux mourir », dit Marcel Proust à Céleste Albaret au printemps de 1922, après qu'il lui a annoncé avoir écrit le mot « fin » au bas d'une page. Mais bien entendu, il y a toujours des choses à dicter, à compléter, à refaire. Le livre n'est jamais fini. Rousseau n'a pas terminé le sien. L'objectif était trop ambitieux. Le livre monumental qu'on apporte au jugement dernier, mais c'est le problème, c'est l'aubaine, qu'on ne peut s'empêcher aussi de dérouter pour son propre plaisir de conteur. Je sais bien que le lecteur n'a pas grand besoin de savoir tout ça, écrit Rousseau à la page 46 de l'édition du livre de poche Les Confessions, mais j'ai besoin, moi, de le lui dire. Que n'osais-je lui raconter de même toutes les petites anecdotes de cet heureux âge qui me font encore tressaillir d'aise quand je me les rappelle? 5 ou 6 surtout, composons, je vous fais grâce des 5, mais j'en veux une seule, pourvu qu'on me la laisse compter le plus longuement qu'il me sera possible pour prolonger mon plaisir. Son plaisir est le nôtre. Thank you.
citation de la Nouvelle Héloïse, deux phrases de Saint-Preux à Milord Édouard. Saint-Preux a appris qu'il ne pourrait jamais partager la vie de Julie et il songe au suicide. Et dans cette lettre à Milord Édouard, il défend le droit au suicide à une époque où celui-ci est condamné pénalement. Plutôt que de parler à la première personne, moi-même, j'ai préféré confier la parole à la mort elle-même, à la Camarde, qui fait un peu la paraphrase de cette lettre de Saint-Preux. Nous avons tous reçu de la nature une très grande horreur de la mort. De la nature, fait la Camarde. Mais il n'y a pas plus naturel que moi. Elle et moi sommes comme sœurs. Parler de l'une, c'est convoquer l'autre. Puis, si vous voulez vous accorder quelques frissons, dans l'horrible, il y a beaucoup mieux. Moi, qui n'ai pourtant pas froid aux yeux, je vous avoue que je m'y prends souvent à deux fois avant de regarder les choses de la vie. D'ailleurs, suis-je vraiment aussi laide, aussi repoussante? Tous les jours, il en est qui viennent à moi, sans que je leur ai fait le moindre signe. On leur a donné la vie, ils se donnent la mort. Ils n'avaient pas choisi la première. Moi qui viens toujours en seconde, je suis bonne fille et ne fais pas trop de manières quand on m'appelle. Un dernier cadeau qu'ils s'accordent, je le serai, je le veux bien. Sans ruban, mais peut-être avec des fleurs. Je laisse le choix des moyens. La vie a moins d'imagination à son départ. Et sur quoi vous fondez-vous pour prétendre que les cris de l'agonisant seraient plus de douleur que ceux du nourrisson? J'en entends dans leur berceau qui voudraient bien pouvoir encore reculer. Quand ceux qui luttent ne font pas toujours contre moi, mais rêvent souvent d'aller plus vite se jeter dans mes bras. De toute manière, en leur donnant la vie, on me les donne, à court ou moyen terme. Et s'ils souhaitent inverser les rôles, non se laisser donner, mais s'offrir à eux-mêmes cette mort que je suis, de passif devenir actif, ils en ont tout loisir. Mais quel est ce « on » qui leur aurait offert la vie? Et d'où vient cette idée de « don » ? Il y eut peut-être un lointain collègue, plus fantastique encore que je ne le suis, qui fut à l'origine de tout ce branle général qu'on voit sur Terre. S'il est encore là, j'espère pour lui qu'il s'est fermé yeux et oreilles. Quant à moi, je ne vois qu'une succession de semences, de graines qui germent et poussent et disséminent au petit bonheur la chance, souvent plus pour le malheur et l'infortune. Et je suis là pour moissonner, du moins on l'affirme. Que d'autres veuillent prendre leur propre destin en main, je l'approuve. Pourquoi d'ailleurs s'y opposer? Si la vie fut donnée, ce n'est pas au donateur de reprendre. Mais qui a reçu, donnera plus loin, et plus loin, c'est moi. Cette vie qui vous fut octroyée, je vous sais gré de me la rendre. Je préfère accueillir que saisir. Mais quand vous débattez avec moi, soyez honnête. Vous reconnaissez que je sais parfois vous rappeler certains devoirs envers ceux qui vous aiment et se désoleraient de vous voir partir si tôt. Envers ceux qui ont besoin de vous et qui souffriraient de votre absence. Envers tous les espoirs qui sont en vous, toutes les promesses encore inaccomplies, qu'il serait cruel de tuer en germe. Je suis rarement pressé, et si vous l'êtes vous-même, je vous retiens un peu. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai cet air qu'on dit repoussant et qui n'est qu'une forme de bienveillance. Vous qui vous y trompez et qui seriez prête à ramper pour me maintenir à distance en hurlant, je ne vous en veux pas. Votre tour viendra. Si la vie vous plaît, quelque forme qu'elle ait prise, accrochez-vous. J'ai le bras plus frêle qu'on ne le croit et ne force pas toujours. Mais vous qui venez à moi spontanément, j'aime votre petit air audacieux. Un léger flottement dans le regard, pourtant, la main qui tremble un peu, puis ce soupir qui vous allège. Quand nous laissons notre corps, nous laissons un vêtement incommode, écrivait le grand raisonneur. Et si nous nous donnions l'un à l'autre, déshabillez-vous, je vois que vous avez déjà desserré la ceinture.
Thank you.
dernier texte, il est légèrement inspiré de faits lourdement réels, peut-être le contraire. Il s'intitule donc « Lecture à l'espace Rousseau ». C'est un dialogue. Il y a un sous-titre. Épisode à demi-imaginaire, extrait et adapté d'un roman en cours, un lointain hommage à Thomas Bernhard, ainsi qu'à l'humeur du dernier Rousseau et à la mauvaise foi de ses détracteurs d'hier, aujourd'hui et demain. Je pars du principe que tout le monde ici a lu au moins deux fois Le neveu de Rameau, de Denis Diderot. Moi, nous parlions d'une maison littéraire. Elle n'a pas de paroi, cette maison, mais elle tient debout comme un oiseau sans aile qui volerait quand même. Les manifestations sont itinérantes, hors les murs. Lui, c'est le genre d'abri qu'il te faudrait, une planque. Tu pourrais inviter ton cousin, Céline, ton frangin, et le fantôme de ton prochain roman, Ultramar, le fasciste, dit le beau géo. Moi, justement, j'avais été exfiltré, vous savez, mais lui, exfiltré, comme nos otages en Libye, moi, exfiltré du milieu. C'est-à-dire que je m'étais exfiltré moi-même depuis la mort de Jacques, notre géant, sans compter celle d'Agota. Elle ne s'en était pas remise, Agota, d'être taxée de pédophilie, de zoophilie, par cette mère de famille qui avait levé le lièvre, alerté les rédactions, secoué la République. On ne payait pas nos impôts pour qu'au lycée, une telle lecture et de telles scènes soient imposées à son fils de 17 ans, au moment magique où il découvrait la sexualité par ses propres moyens. La Tribune enfonçait le clou. Le roman trash d'Agota avait en mérite sa brièveté. On l'épuisait en effectuant d'un bout à l'autre le trajet de notre ligne de tramway numéro 12 entre Bachet-de-Pezet et Moelle-Sulla. Mais il n'était destiné qu'à faire du fric. Allait-on christophiser nos enfants après les avoir potérisés? L'école n'avait-elle pas le devoir de résister à cette dérive? C'est à peu près à ce moment-là que je me suis auto-exfiltré. J'ai décroché. Plus envie du tout, dégoûté, rétamé, absent de mon livre, incapable de rien mettre sur le marché, sauf des vieilleries à peine retapées. Mon cousin Bernard m'avait prévenu. Tu glisses sur la pente savonneuse, ta moindre descente olympique, tu ressens l'ivresse de la vitesse, c'est grisant la chute, aucune chance de t'en relever jamais. Tu ferais mieux de prendre ta retraite anticipée avec moi du côté de Vientiane ou ailleurs, les doigts de pied en éventail et tous les membres à l'air. Qu'est-ce qui te retient? Tes arbitrages? Tu veux vraiment gambader sur la mauvaise pelouse genevoise jusqu'à 70 balais quand tu pourrais brouter le tendre gazon de Vientiane avec ton seigneur? Lui. Et tu n'as pas été tenté? Moi, elle est toujours là, votre tentation. Elle ne me quitte pas. Mais j'y réagis. J'ai repris le commandement, accepté l'invitation de la présidente à m'exhiber hors les murs, à l'espace Rousseau, en vedette américaine, avec mon frère. Tout le milieu a répondu présent. On a dû refuser du monde, malgré le proche ouragan rétrogradé en pluie tempétueuse ce soir-là. On nous attendait au contour. Une grande première, je n'avais encore jamais sorti mon frère. Il a fallu mettre de l'huile de coude pour garnir l'événement. Il n'y avait pas de table, pas de chaise, pas de projecteur à l'espace Rousseau. J'ai dû négocier avec Françoise. Lui, Françoise? Moi, la directrice du Poche. Lui, le Poche? Moi, en proche théâtre. Elle nous a prêté le matériel vital, dont une table de bistrot anthracite. On a tout transporté nous-mêmes en travaillant du coude. On a démonté les pavots amovibles, On a démonté les panneaux amovibles, l'imposant portrait à l'huile de maman, lui, maman, moi, Madame de Varence, l'idole du beau géo, très difficile à décrocher en raison d'un système d'attache torsadé. Heureusement qu'Olga nous a aidés. Lui, Olga, moi, la jeune comédienne russe. Rien n'aurait été possible sans elle. Elle a lu nos textes avec l'accent de Volgograd. Le milieu était scotché. Dommage qu'il y ait eu ce problème d'argent. Lui, moi, je lui avais promis 500 francs à Olga. Lui, c'est le prix. Moi, pour les 3 jours de répétition, pour le transport des chaises, de la table de bistrot anthracite, des projecteurs du poche, pour le démontage et le remontage des panneaux amovibles de l'espace, pour son bas noir qui avait filé, pour la prestation. Mais la maison avait prévu 300. J'ai dû fouiller dans mon enveloppe, glisser 2 billets de 100 supplémentaires dans la paume d'Olga pour commencer en douce, pendant la pause cigarette, dans la grande rue, près des canons. Lui, des canons. Moi, 10 mètres plus haut en face, entre les armures, la brasserie et l'hôtel de ville. Un lieu mal famé, cette grande rue sur le pavé de laquelle Jean-Jacques usa son premier fond de culotte. L'ONU vient d'appeler solennellement ses personnels logés dans les attiques des parages à déménager dès qu'ils le peuvent et ne plus se déplacer seul la nuit. On n'en menait pas trop large avec Olga pendant la pause cigarette sous le parapluie ruisselant. On surveillait les allées et venues. Le matin dimanche a publié la carte des points chauds. Les pubs n'ont plus d'heure de fermeture obligatoire. Vendredi, samedi soir, les traders anglo-saxons de passage se déchaînent, boivent sans retenue, fomentent des rixes, mettent les lieux à sac. Passé une certaine heure ouvrable, s'aventurer du côté du bourg de four confine au suicide. Lui, le bourg de four, tu en es sûr? Moi, elle m'agace votre crasse méconnaissance de la topographie locale, de l'histoire en définitive. Lui, histoire. J'ai parfois l'impression que tu ne t'éloignes pas du grand sujet des années 30, du fascisme, du beau géo. Moi, c'est exactement ça mon sujet. Ce fond de mauvaise foi, de mauvaise humeur genevoise, de gouaille, de râlerie, qui avait déjà tué Rousseau et qui a tenu lieu de ligne au beau géo tout au long de sa carrière et sur lequel il a bâti son audience, sa formidable popularité. Alors la furie antisémite, l'appel au meurtre du juif ukrainien Dicker, du bolchevique vaudois Léon Nicole, les crochets par Rome chez Mussolini, Paris chez Otto Abetz, Sigmaringen enfin, l'opprobre, le mandat, l'arrêt de la cour de justice de la Seine, la mort par contumace en 1950, rien de significatif pour le Genevois. Rien de mémorable, rien qu'on puisse seulement saisir. Ce fond ne nous a pas quittés. Ultramar ne nous a pas quittés. Il nous colle à la peau en fond de teint. Il est toujours avec nous, avec notre parti des automobilistes, avec Vigilance, avec le mouvement des citoyens genevois, avec l'Union des démocrates du centre, avec tous les autres. Ultramar ne nous quittera jamais. Ultramar, c'est nous. Et c'est parce que nous le savons depuis toujours, parce que cela ne fait pas l'ombre d'un doute, parce que cela ne se discute même pas, parce que cela nous est, comment diraient nos pasteurs ou prédicateurs, consubstantiel, parce que cela flotte dans l'atmosphère, parce que cela constitue l'atmosphère des gens d'ici, qu'Ultramar est si radicalement oublié aujourd'hui. Que son nom ne figure pas sur le menhir du souvenir plus jamais ça, pleine de plein palais, que nos manuels ne le mentionnent pas. C'est inutile. Ultramar n'est pas mort, il est en nous, enfoui en nous, pour les siècles des siècles. Lui, Ultramar était avec toi dans la grande rue pendant la pause quand tu tirais sur ta colpe avec Olga. Moi, il l'aurait adoré, Olga, et comme il aurait eu raison. Il l'a bien connue, Olga. Il les a toutes bien connues. Lui, tu disais, elle avait déjà touché 300. Moi, je lui avais promis 5 pour la lecture. J'ai ouvert mon enveloppe. J'ai glissé les 2 dans sa paume adorable. Elle avait laissé son sac à main là-haut. Elle ne savait pas où les fourrer. Elle s'est penchée un instant. Il m'a bien semblé qu'elle avait la gorge nue. Les 200 sont allés dans sa chaussure. J'en ai profité pour lui raconter l'histoire de ce footballeur anglais en mercenaire selon mon père, lui, l'encéphalite. Moi, s'il vous plaît, ce mercenaire britannique, un des premiers pros engagés dans notre championnat vers les années 30, qui exigeait de toucher sa prime avant de jouer au risque de solder le match. L'entraîneur avait trouvé la parade. Il introduisait sous le protège-semelle du mercenaire la moitié d'un billet de banque déchiré en deux. Il gardait l'autre moitié du billet pour la fin de la partie selon le score et la performance. J'espère que Colgan n'aura pas pris contre elle. J'ai bien vu qu'elle louchait bizarrement vers sa chaussure, une petite taupe à talons aiguilles presque trop russe, irrésistible sous le bas noir qui avait filé. Elle devait se demander si les deux billets de 100 piliers n'étaient pas eux aussi déchirés en deux. Lui, on ne peut pas nier ton côté faussaire. Moi, n'empêche, un véritable triomphe est sorti. Même Marius était là. Je vous l'ai dit, je reprends le commandement. Lui, Marius. Moi, le loup, chauffeur de trolleybus à Lausanne en roumain, auto-exfiltré lui aussi du temps des Georgescu. Lui, un agent, ma parole. Moi, un écrivain. Il édite en Suisse un journal de guerre imprimé à Bucarest, format mondial, encre très noire, très grasse, tachante. Notre cas, à mon frère et moi, a fait la une du dernier numéro. Lui, il est en contact avec la mafia des autres Roumains. Moi, il n'a peur de rien, Marius, il dirige le réseau. Son roman autobiographique à large spectre, une symphonie, vient d'épater le milieu entre Paris et Ouchy. Lui, autre chose que ton maigre butin, ses actions volent plus haut que les tiennes, non? Moi, on s'est ligués, Marius, mon frère et moi. C'est moi qui signe la prière d'insérer de son nouvel opus une cantate. On partagera les bénéfices avec le réseau. Les affaires ont repris. Marius a récupéré des centaines de cartons. Il a détourné, au profit des faux mendiants roumains, la campagne de Terre des Hommes. Ils alpaguent l'automobiliste au feu rouge, devant le siège de l'OMC, en lui offrant le morceau de carton pâte beige, avec l'inscription orange et noire taguée « Conservez ce carton précieusement, c'est le seul matelas pour vous et votre petite sœur. » Leur frangine. Les automobilistes succombent à l'arrêt devant le siège. Ils casquent tous. Je vous remercie.